Dans Hébreux, chapitre 7, car ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et qui le bénit, auquel aussi Abraham donna pour part la dîme de tout, premièrement étant interprété roi de justice, et puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais assimilé au Fils de Dieu, demeure sacrificateur à perpétuité. Mais considérez combien grand était celui à qui même Abraham donna une dîme du butin, lui le patriarche. Et ceux d'entre les fils de Lévi qui reçoivent la sacrificature ont bien un commandement de dîmer le peuple selon la loi, c'est-à-dire leur père, bien qu'il soit sorti des reins d'Abraham, mais celui qui ne tire pas généalogiquement son origine d'eux, a dîmé Abraham et a béni celui qui avait les promesses. Or, sans contredit, le moindre est béni par celui qui est plus excellent. Et ici, des hommes qui meurent reçoivent des dîmes, mais là, celui de qui il est rendu témoignage qu'il vit, et pour ainsi dire, Lévi même, qui reçoit des dîmes, a été dîmé en Abraham, car il était encore dans les reins de son père, quand Melchisédek alla au-devant de lui. Si donc la perfection était par la sacrificature lévitique, car c'est en relation avec elle que le peuple a reçu sa loi, quel besoin était-il encore que notre sacrificateur se levât selon l'ordre de Melchisédek et qu'il ne fût pas nommé selon l'ordre d'Aaron? On va arrêter ici. Je vous propose la prochaine fois de lire le restant du chapitre 7, parce que le chapitre se divise en deux parties. La première partie qu'on a lue ce soir nous parle de l'ordre de Melchisédek. Et le restant chapitre, on va voir dans sept points la grandeur, la qualité de cette sacrificature. Donc l'ordre selon Melchisédek, ensuite la qualité supérieure de cette sacrificature. Maintenant, j'aimerais encore montrer le lien avec ce qu'on a vu dans le passé. Si vous voulez voir dans Hébreux 5, l'auteur, sans doute Paul, a commencé déjà à parler de Melchisédek. Chapitre 6, tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. C'est une citation du psaume 110. Peut-être vous le savez, mais ce psaume est cité le plus souvent dans le Nouveau Testament. C'est donc un psaume très important, le psaume 110. Et là, nous avons déjà lu de Melchisédek. Ensuite, on a vu au verset 10, étant salué par Dieu, souverain sacrificateur. Il parle ici, on a vu dans le passé, il parle ici du Seigneur Jésus, qui est maintenant salué, qui a été salué de la part de Dieu comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc on va se rappeler, il parle ici de Christ glorifié, Christ qui a été reçu dans le ciel et qui a été salué par Dieu lui-même. Puis là, au verset 11, il dit au sujet duquel nous avons beaucoup de choses à dire. Mais là, il s'arrête. Pourquoi? On a vu, c'était à cause de la condition spirituelle des auditeurs, des Hébreux. Et là, il a donc parlé encore dans une parenthèse de leur responsabilité. On a parlé de cela la dernière fois dans le chapitre 6. Et à la fin du chapitre 6, nous avons vu que le Seigneur Jésus est dans la gloire, il est notre espérance, il est l'ancre de l'âme, au verset 19, chapitre 6, verset 19, sûr et ferme, il est entré comme précurseur, ça veut dire donc un précurseur, ça veut dire d'autres vont suivre. Et ainsi nous avons vu, le Seigneur est maintenant dans la gloire comme précurseur parce que nous allons suivre. Et il est là pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Donc là, il revient sur son point du chapitre 5, versets 10 et 11. Et là, il va maintenant continuer sur cette question du Melchisédek. Pourquoi ? Pour montrer la grandeur de la personne du Seigneur Jésus, de deux façons, comme roi et comme sacrificateur. C'est un nouvel élément. On a vu déjà dans le passé, le Seigneur est plus grand que les anges. Les anges dans le système judaïque avaient une grande place, étaient beaucoup respectés. Nous avons vu que le Seigneur Jésus est plus grand que tous les hommes, aussi dans le millénium, chapitre 2. On a vu qu'il est plus grand que Moïse. On a vu qu'il est plus grand que Aaron. Ainsi, le Seigneur est présenté ici comme le vrai Melchisédek. Ce Melchisédek, roi de Salem, donc on est maintenant au chapitre 7, verset 1, sacrificateur du Dieu très haut. J'ai vérifié, il y a 51 références au Dieu très haut. Et c'est peut-être une bonne idée de lire brièvement ce passage dans Genèse 14. Genèse, chapitre 14, pour avoir une idée de qui Paul parle ici dans l'Hébreu. Genèse 14. C'est la première guerre qui est mentionnée dans la Bible. Et pourquoi? Parce que Lot était impliqué. Et nous voyons dans ce chapitre que Abraham a fait des démarches pour libérer Lot. Il a été pris comme captif et Abraham avec d'autres gens sont allés pour le libérer. Ensuite, nous lisons verset 16, Genèse 14, verset 16. Il ramena, donc il c'est Abraham, il ramena tout le bien et ramena aussi Lot, son frère, et son bien, et aussi les femmes et le peuple. Et comme il s'en revenait, après avoir frappé Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Donc il allait rencontrer le roi de Sodome, qui voulait lui offrir quelque chose. Mais avant qu'il rencontre le roi de Sodome, Dieu a envoyé un autre roi, verset 18, Melchisédek, roi de Salem. Et on lit là, il fit apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Dieu très haut, et il le bénit. Donc ça veut dire, Melchisédek a béni Abraham. Il dit, béni soit Abraham, de par le Dieu très haut, possesseur des cieux et de la terre. Verset 20. Et béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ensuite, il rencontre le roi de Sodome. Verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends les biens pour toi. Et Abraham dit au roi de Sodome, j'ai levé ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut, possesseur des cieux et de la terre. Vous voyez, Dieu avait préparé Abraham pour rencontrer le roi de Sodome, pour donner une bonne réponse, une bonne confession, qu'il ne voulait pas être enrichi par le roi de Sodome. Il ne veut rien recevoir de lui. Pourquoi pas? Parce qu'il avait rencontré le roi sacrificateur qui représentait le Dieu très haut. Le Dieu très haut, c'est le nom de Dieu pour le millénium. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le monde à venir, et Hébreu nous parle beaucoup de ce monde à venir, le Seigneur va régner et toute la terre sera sous son autorité. Et ainsi, le Seigneur Jésus sera le vrai roi de paix. Melchisédek veut dire roi de justice. Salem veut dire paix. Jérusalem veut dire ville de la paix. Et ainsi, le Seigneur Jésus va régner comme le vrai Melchisédek dans le millénaire. Donc ici, on a une belle image. Dans les jours à venir, après l'enlèvement de l'Église, les Juifs seront dans une position difficile, comme Abraham ici. Mais Dieu va intervenir, et ainsi, ils seront bénis et introduits dans le règne du Dieu très haut. Le Dieu très haut, comme on voit dans le psaume 91, est aussi le Dieu tout-puissant. Dieu, le Dieu tout-puissant s'est montré à Abraham. On voit cela dans Genèse 17, par exemple. Dans le chapitre 17, nous voyons comment un homme qui ne pouvait plus avoir des enfants a quand même eu un enfant plus tard. Par sa femme qui ne pouvait pas avoir des enfants de toute façon parce qu'elle était stérile et trop âgée. Vous voyez, c'est le Dieu tout-puissant qui est intervenu. Et ainsi, c'est le Dieu tout-puissant qui va aussi aider le reste fidèle dans les jours à venir, dans la grande tribulation, pour ensuite les introduire dans ce royaume merveilleux, ce millénium, ce règne de paix, de justice et de paix. Ce sera le Dieu tout-puissant qui va faire ça. Maintenant, ça c'est donc l'aspect prophétique. Ces choses, comme on voit ici dans Genèse 14, sont comme une illustration de la prophétie, comme les événements prophétiques. Mais dans Hébreux 7, l'auteur prend ces choses pour maintenant parler du Seigneur Jésus, de ce qu'il est pour nous aujourd'hui. Donc il prend le même élément, par exemple le pain et le vin, on pourrait parler de cela, comment il apporte le pain et le vin pour soutenir son peuple. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus, comme le vrai roi sacrificateur, il apporte du pain et du vin pour soutenir son peuple. Il bénit son peuple. Et c'est beau de voir que comme sacrificateur, Melchisédek est entre Abraham et Dieu. De la part de Dieu, il a béni Abraham. Mais de la part d'Abraham, il a aussi parlé à Dieu pour parler en bien à Dieu. Béni soit le Dieu très haut. Au verset 20. Ça, c'est donc de la part d'Abraham. C'est vraiment très beau de voir ces éléments. Ce mot Salem, pour revenir maintenant à Hébreux 7, verset 1, se trouve 4 fois dans la Bible. Ici, une fois, Genèse 14, une fois dans le psaume, le psaume 76, et deux fois dans Hébreux 7. Mais maintenant, j'aimerais souligner un point. Melchisédek, son nom est interprété au verset 2, lequel aussi Abraham donna pour part la dîme de tout, premièrement étant interprété roi de justice. Ça prend d'abord un fondement de justice. Dieu a établi la justice par l'œuvre du Seigneur Jésus. En d'autres mots, le Seigneur Jésus a répondu à toutes les exigences de la justice de Dieu. Dieu a trouvé une pleine satisfaction dans l'œuvre du Seigneur Jésus. Et ainsi, la justice pouvait être établie. S'il y a la justice, là, il peut y avoir aussi la paix. C'est la deuxième pensée, puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Ce sera le cas dans le monde à venir. Vous voyez, il y aura donc cette justice qui va être établie sur la terre. Un roi régnera en justice, Ésaïe 32. Et ainsi, il y aura de la paix. On ne peut pas avoir la paix sans la justice. Aujourd'hui, les gens veulent la paix, mais sans la justice de Dieu, ça ne marcherait jamais. D'abord la justice, ensuite la paix. Maintenant, qu'est-ce que ça a à dire pour nous? Nous appartenons au royaume de Dieu présentement. Romains 14, verset 17, nous dit, le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, mais justice et paix et joie dans le Saint-Esprit. Et ainsi, nous voyons les mêmes éléments aujourd'hui déjà. Nous, nous avons dit, le monde à venir, là, ces éléments de justice et de paix seront établis officiellement, publiquement, mais dans la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, nous appartenons déjà au royaume de Dieu. Et ainsi, cette justice est là pour nous. Nous avons été placés sur cette base, la justice, et ainsi, nous pouvons jouir de la paix. L'Épître aux Romains explique cela en détail. Et dans ce royaume, nous sommes des disciples du Seigneur Jésus. Et dans le monde à venir, nous allons régner avec le Seigneur Jésus. Une autre chose que j'aimerais souligner, c'est les deux éléments, roi et sacrificateur, sont ensemble ici dans Melchisédek. Dans la loi de Moïse, nous voyons clairement qu'aucune personne pouvait être roi et en même temps sacrificateur. C'était absolument interdit. Ici, par contre, nous avons cette pensée. Parce que c'était vraiment la pensée de Dieu qu'il y ait un roi qui soit en même temps sacrificateur. Maintenant, dans le monde à venir, ce sera le cas. Je vais juste lire un verset dans Zacharie. C'est l'avant-dernier prophète dans l'Ancien Testament, Zacharie, chapitre 6. Dans Zacharie chapitre 6, Zacharie a vu ses visions qui nous parlent de ce que Dieu va faire dans les jours à venir, et aussi dans ce millénium, ce règne de paix, il y aura un homme, verset 12, voici un homme, ok, on lit maintenant Zacharie 6 verset 12, il lui parlera disant, ainsi parle l'Éternel des armées, disant, voici, donc il demande l'attention, voici un homme dont le nom est Germe. Il germera de son propre lieu, il bâtira le temple de l'Éternel. Lui, il bâtira le temple de l'Éternel, il portera la gloire et il s'assiera et dominera sur son trône. Et il sera, notons bien maintenant, il sera sacrificateur sur son trône. Donc, il dominera sur son trône. C'est le roi. Deuxièmement, il sera sacrificateur sur son trône. Et troisièmement, le conseil de paix sera entre eux deux. C'est peut-être aussi le service de prophète qu'on voit que le Seigneur a. Mais en tout cas, on voit ces deux éléments ensemble ici, le roi et le sacrificateur. Ce sera le cas dans le millénium. Maintenant, on va revenir à Hébreux 7. Si le Seigneur Jésus est déjà maintenant le vrai Melchisédek, on a vu cela dans Hébreux 5, Dieu l'a salué selon l'ordre de Melchisédek, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ça veut dire qu'il est sacrificateur maintenant dans la gloire. Il est roi selon les pensées de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Dieu veut nous bénir déjà maintenant. Dieu ne veut pas attendre jusqu'à ce que le millénium commence. Dieu veut nous introduire déjà spirituellement dans ce bonheur qu'on voit ici, sous l'autorité du Seigneur Jésus comme étant ce vrai roi sacrificateur. Nous sommes très très bénis, bien-aimés. Que avant que Dieu établisse cela publiquement sur la terre, nous avons déjà ce bonheur dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas seulement un avant-goût. Nous avons la meilleure part. Une part qui est meilleure comparée avec ceux qui vont jouir de cela dans le temps où le millénium sera établi. Ce nom très haut est le nom de Dieu pour le millénium. Et c'est le Dieu Tout-Puissant qui va accomplir toutes les promesses qu'il a données à Abraham. Dieu est garant pour l'accomplissement de cela. Mais nous pouvons connaître déjà le Seigneur Jésus comme le vrai Melchisédek aujourd'hui. Maintenant, on va voir trois choses qui nous montrent comment le Seigneur Jésus, comme le frère Melchisédek, est plus grand que Aaron. Donc dans le contexte, on se rappelle, Hébreux nous montre la grandeur du Seigneur Jésus. Plus tard, on va voir son sacrifice est plus grand que tous les sacrifices de l'Ancien Testament. On verra cela dans Hébreux 9 et 10. Plus tard, on va voir qu'il est notre grand conducteur. Mais ici, l'emphase est encore sur sa personne, qu'il est plus grand que toutes les personnes que Dieu a utilisées dans l'Ancien Testament. Donc verset 3 nous montre que dans Genèse 14, il n'est pas mentionné que Melchisédek avait un père ou une mère, il était sans généalogie. Ça ne veut pas dire que littéralement il n'avait pas de père ou de mère, mais ça a été donné comme cela, déjà inspiré par l'Esprit de Dieu lorsque Moïse a écrit Genèse, pour, comme il dit ici au verset 3, pour être assimilé au Fils de Dieu. Il est donc une image, un type du Seigneur Jésus, une illustration de ce qu'on trouve dans le Seigneur Jésus. Et là, il demande notre attention au verset 4, « Considérez combien grand était celui à qui même Abraham donna une dîme du butin. » On a vu déjà au verset 2 qu'il donnait la dîme de tout, verset 2 au milieu. Ici au verset 4, « Abraham donna une dîme du butin. » Le mot « butin » ici veut dire la meilleure part du butin, dans l'original. La meilleure part, donc, Abraham donna une dîme, mais c'était de la meilleure partie du butin. Notons bien que Abraham a donné donc une dîme, ça veut dire une dixième, à Melchisédek. Et ainsi, nous voyons que Melchisédek était plus grand qu'Abraham. Et ça, c'est le premier point. Melchisédek était plus grand qu'Abraham. Premier point. Par le fait qu'Abraham a donné une dîme du butin. Un peu plus loin, il développe cet argument au verset 9 et 10. Pour ainsi dire, Lévi même qui reçoit des dîmes, et selon la loi, Lévi ou les Lévites reçoivent des dîmes, selon la loi, pour la sacrificature, selon l'ordre d'Aaron, ils reçoivent des dîmes. Mais en Abraham, ici, dans Genèse 14, en Abraham, lorsqu'il était encore dans les reins de son père, Lévi, ou les Lévites, a donné des dîmes. Vous voyez l'argument? C'est pour montrer que Abraham, mais aussi ses descendants, comme Lévi, sont placés inférieur comparé avec Melchisédek. C'est là l'argument. Aussi Abraham, mais aussi les Lévites, toute la sacrificature lévitique est donc d'un ordre inférieur comparé avec Melchisédek. Ça, c'est le premier argument, vu par le fait qu'il donne les dîmes à Melchisédek. Le deuxième argument, c'est au verset... Okay. Ce n'est pas seulement que Melchisédek a dîmé Abraham, mais il l'a béni aussi. Ça, c'est le deuxième argument. Donc j'aimerais revenir, mais je vais mentionner les trois arguments en ligne, on va revenir à ça. Le fait que Melchisédek a béni Abraham est une preuve que Melchisédek était plus grand qu'Abraham. Vous voyez, ça c'est l'argument au verset 7. Sans contredit, le moindre est béni par celui qui est plus excellent. Le troisième élément, c'est au verset 8. Les Lévites reçoivent des dîmes selon la loi, mais ils meurent. Verset 8. Ici, des hommes qui meurent reçoivent des dîmes. Il parle donc ici des Lévites qui, selon la loi, dans le contexte de la sacrificature, selon l'ordre d'Aaron, reçoivent des dîmes. Mais à la fin du verset 8, « Mais là, celui de qui il est rendu témoignage, qu'il vit. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que les hommes, selon l'ordre d'Aaron, il meurt, mais le Seigneur Jésus, selon l'ordre de Melchisédek, roi et sacrificateur, il vit. Et ici, ce n'est pas comme fils de Dieu, il vit comme Dieu, évidemment, Dieu ne peut pas mourir. Mais ici, il est vu aussi comme homme dans cette capacité de sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il vit. C'est la vie de la résurrection qu'on voit ici. Le Seigneur Jésus vit. C'est la vie de la résurrection. Ça nous montre la puissance de cette sacrificature au-dessus de la puissance de la mort. Donc ces trois éléments nous montrent quoi? Que l'ordre de Melchisédek est supérieur comparé avec l'ordre d'Aaron. Et la prochaine fois, comme j'ai dit, on va voir que la qualité du service, la qualité de la sacrificature de Melchisédek est plus élevée que la qualité de la sacrificature selon l'ordre d'Aaron. Maintenant, peut-être on peut parler de quelques détails encore. On a parlé déjà dans le verset 2 de cet ordre, d'abord la justice, ensuite la paix. On a aussi parlé du fait que le Seigneur Jésus est roi et sacrificateur dans une même personne. Ça c'est aussi exceptionnel, c'était inconnu dans la loi et même interdit par la loi. Mais maintenant j'aimerais souligner le verset 4. Considérez combien grand était celui à qui même Abraham donna une dîme du butin. Ici, nous voyons que Melchisédek typifie le Seigneur Jésus. On a vu cela au verset 3 déjà. Donc Melchisédek, la grandeur de Melchisédek est expliquée ici pour montrer quoi? Pour montrer la grandeur du Seigneur Jésus. Plus on voit la grandeur de Melchisédek, mieux on comprend la grandeur du Seigneur Jésus. Comme fils sacrificateur maintenant. Lorsque l'ange a parlé à Marie dans Luc 1, verset 32, il a dit, il sera grand. Il sera grand. Et si on veut dire, si on veut donner un titre à ce livre, l'Épître aux Hébreux, on peut dire, c'est une porte ouverte dans le ciel, mais c'est aussi pour montrer la grandeur du Seigneur Jésus. C'est la grandeur, et comme nous avons chanté notre cantique, la parole nous montre la personne du Seigneur Jésus pour nous attacher nos cœurs davantage à sa personne. Sa grandeur est montrée de plusieurs façons. Juste pour donner un exemple, on a vu dans chapitre 4, il est un souverain sacrificateur. Non. 4 verset 14 dit, ayant donc un grand souverain sacrificateur. Et ainsi, cette pensée de sa grandeur revient. Aussi plus tard, on verra dans chapitre 10, la grandeur du Seigneur Jésus comme grand sacrificateur, souverain sacrificateur, pour nous introduire dans la présence de Dieu. Dans chapitre 4, nous avons vu, c'est pour nous soutenir dans notre marche à travers le désert. Et plus tard, on verra, c'est aussi comme conducteur pour nous introduire dans la présence de Dieu. Sa grandeur, notons bien maintenant l'argument. Il est plus grand qu'Abraham, on a vu cela. Mais si on réalise que Abraham, son grand, son petit enfant, Jacob, plus tard, on lit dans Genèse 47 que Jacob a béni le Pharaon. Donc imaginez-vous, le Pharaon de l'Égypte, un grand roi a été béni par le patriarche Jacob. Et au verset 7, on a lu, sans contredit, le moindre est béni par celui qui est plus excellent. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Selon les standards de Dieu, Jacob était plus excellent que le Pharaon, le roi d'Égypte. Et dans ce contexte-là, Abraham, qui était le grand-père de Jacob, était inférieur comparé avec Melchisédek. Donc, combien grand Melchisédek doit être Vous voyez l'arbre de Noé? Tellement grand. C'est donc pour souligner la grandeur de Melchisédek comme image du Seigneur Jésus. Donc ça nous aide à comprendre la grandeur du Seigneur Jésus. Pas seulement plus grand qu'Abraham ou que Jacob, qui était déjà plus grand que le Pharaon selon les pensées de Dieu, mais encore plus grand que toute autre personne. L'autre point que j'aimerais souligner maintenant, donc on a répété, la grandeur de Melchisédek se montre par le fait qu'il a reçu des dîmes d'Abraham, deuxièmement, qu'il a béni Abraham. Maintenant, on veut parler de cela. Il a béni Abraham. On a vu déjà dans Genèse 14, comme sacrificateur, il était aussi intermédiaire. Il était entre Dieu et Abraham. Excusez. Donc, ce deuxième aspect, que comme sacrificateur, Melchisédek a béni Dieu, ça veut dire qu'il a adoré Dieu, ou a parlé en bien de Dieu, de la part d'Abraham, cet élément n'est pas développé ici dans ce contexte-là. Ce qui est développé ici, c'est le fait qu'il a béni Abraham de la part de Dieu. Et là, l'argument est, sans contredit, le moindre est béni par celui qui est plus excellent. Donc, ce principe que Abraham a été béni par Melchisédek montre que Melchisédek était plus grand selon les pensées de Dieu qu'Abraham. Vous voyez? Maintenant, le mot excellent, plus excellent. Dans l'original, ce mot revient 12 fois. 12 fois. C'est plus que 10 doigts. 12 fois dans cet épître. Plus excellent ou meilleur. On voit ici la suprématie ou la supériorité du Seigneur Jésus. Comme le vrai Melchisédek, il est plus excellent même qu'Abraham ou même que Aaron ou le sacrificateur lévitique. Plus excellent. On a vu dans le chapitre 1, verset 4, un nom plus excellent que les anges. On a vu au chapitre 6, la dernière fois, au verset 9, mais nous sommes persuadés en ce qui vous concerne, bien-aimés, de choses meilleures et qui tiennent au salut, quoi que nous parlions ainsi. Vous voyez, des choses meilleures. C'est le même mot ici, plus excellent. Et chapitre 7, verset 19, parle d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Au verset 22, une meilleure alliance, c'est la nouvelle alliance, on va revenir à ça plus tard, c'est une meilleure alliance. C'est aussi appelé une alliance éternelle dans le chapitre 13, mais ici une meilleure alliance. Et ainsi, chapitre 8, verset 6, maintenant Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent. Vous voyez, plus excellent que le ministère de Moïse. Chapitre 8, verset 6. Maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est médiateur d'une meilleure alliance. Et ainsi, ça continue encore plusieurs fois, chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11, plusieurs fois, nous parle de ces choses qui sont plus excellentes, tout ce qui est en rapport avec le Seigneur Jésus. Et ainsi, même les croyants de l'Ancien Testament, même les croyants comme Abraham, dans le chapitre 11, à la fin, juste pour donner un autre exemple, verset 40, verset 39 déjà, tous ceux-ci ayant reçu témoignage par la foi n'ont pas reçu ce qui avait été promis, Dieu ayant eu en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas à la perfection sans nous. Quelque chose de meilleur Dieu avait en vue pour nous. Meilleur que Abraham et Isaac même ont connu. Donc ce mot plus excellent, pour revenir maintenant, chapitre 7, verset 7, sans contredit le moindre, est béni par celui qui est plus excellent. C'est vraiment un mot clé pour cette épître. Maintenant, j'aimerais faire une application, une leçon pratique. S'il est vrai que nous sommes tellement bénis, Dieu nous a bénis, comme Abraham était béni de la part de Dieu par Melchisédek, Dieu nous a maintenant bénis par le Seigneur Jésus. Quelle est notre réponse? C'est ça la question. Et ça m'a frappé beaucoup de voir cette pensée-là. Ici, nous voyons ce qui est moindre est béni par celui qui est plus excellent. Et la parole est très exacte. Vous connaissez l'histoire, j'ai mentionné tantôt que le Pharaon a été béni par Jacob, et qu'ainsi Jacob était plus grand que le Pharaon, selon les pensées de Dieu. Mais vous connaissez l'histoire de Siméon. Siméon qui entrait dans le temple lorsque Marie et Joseph entraient dans le temple avec le bébé, le Seigneur Jésus, comme bébé. Et nous lisons dans Luc 2 que Siméon les bénit. La parole ne dit pas que Siméon a béni le bébé. Pourquoi pas? Parce que le bébé, le Seigneur Jésus, était plus grand que Siméon. Siméon ne pouvait pas bénir le Seigneur Jésus. Dans ce sens-là, il a béni les parents, dans Luc 2, verset 34. Maintenant, le point que j'aimerais amener, si nous avons reçu ces bénédictions merveilleuses de la part de Dieu, nous pouvons donner une réponse. Et ça m'a frappé de voir dans Luc 24. Dans Luc 24, lorsque l'œuvre était accomplie par le Seigneur Jésus, lorsqu'il est ressuscité le premier jour de la semaine, comme aujourd'hui c'est le premier jour de la semaine, nous lisons dans Luc 24, verset 50, Luc 24, verset 50, il les mena dehors jusqu'à Béthanie, et levant ses mains en haut, il les bénit. Vous voyez, là nous voyons ce Melchisédek. Le Seigneur Jésus a béni les disciples à ce moment-là. Donc on a vu, il va bénir le peuple d'Israël dans le millénium, il va bénir les nations, mais nous avons déjà maintenant cette bénédiction. Il nous a bénis déjà maintenant, comme restés, comme exaltés, parce que le ministère de Paul va encore plus loin, que ce moment-là, nous voyons le Seigneur Jésus comme ressuscité. Et verset 51, il arriva quand les bénissants y furent séparés. Donc, c'est vraiment un verset qui nous aide à comprendre. Ici, nous voyons le Seigneur comme le grand sacrificateur. On verra la prochaine fois, Dieu voulant, que de la tribu de Judas, qui n'avait pas de sacrificateur. Mais ici, nous voyons le Seigneur Jésus, de la tribu de Judas, comme sacrificateur, qui a béni les disciples. Pourquoi? Ici, il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est ça qu'on voit ici. En les bénissant, il fut séparé. Et ainsi, le Seigneur, de la gloire, il nous bénit aujourd'hui. Il est élevé dans le ciel, et il nous bénit comme ce grand sacrificateur Melchisédek. Mais maintenant, encore un point. Qu'est-ce qu'on voit au verset 53? Ils retournèrent avec une grande joie. Verset 53, ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ils donnent une réponse. Ils bénissent Dieu. Et ça, c'est l'autre élément que j'ai mentionné. Ce n'est pas développé dans Hébreux 7. Mais on a vu que dans Genèse 14, Abraham a béni Dieu par l'intermédiaire de Melchisédek. Et aujourd'hui, nous avons cette place de pouvoir louer et bénir Dieu, mais c'est par le Seigneur Jésus qui est notre grand Melchisédek. Maintenant, je souligne encore ce point au verset 8. L'ordre de Melchisédek est plus élevé que l'ordre de Lévi. Pourquoi? Il reçoit des dîmes, pas seulement selon la loi, mais des dîmes même d'Abraham. Il est donc plus grand qu'Abraham, on a vu cela. Il a béni Abraham, et maintenant, verset 8, celui de qui il est rendu témoignage qu'il vit. Là, comme j'ai mentionné déjà, nous voyons le Seigneur comme ressuscité, comme dans Luc 24 aussi, tantôt, et c'est encore pour souligner l'ordre de Melchisédek est plus élevé que l'ordre d'Aaron, parce que selon l'ordre d'Aaron, tous ces Lévites sont morts. Verset 11, c'est là où j'aimerais arriver maintenant, c'est la conclusion. Si donc la perfection était par la sacrificature lévitique, quel besoin, je saute maintenant la parenthèse, quel besoin était-il encore qu'un autre sacrificateur se levât selon l'ordre de Melchisédek? C'est clair. Si la perfection était atteint par la sacrificateur lévitique, on n'aurait plus besoin d'un autre ordre. Mais ça, c'est exactement l'argument ici. L'ordre de Melchisédek est plus excellent que l'ordre d'Aaron. Et maintenant, pour revenir à la parenthèse, qu'est-ce que la parenthèse dit? Car c'est en relation avec elle que le peuple a reçu sa loi. Et plus tard, on verra que la loi n'amène rien à la perfection. La loi ne peut pas amener à la perfection. On verra cela plus tard. Plusieurs fois, ça va revenir. La loi ne peut pas amener à la perfection. Donc ici, Dieu introduit un nouvel ordre de choses qui amène à la perfection. C'est ça l'argument. Le mot perfection veut dire aussi accomplissement. C'est pour souligner qu'avec l'ordre du Seigneur Jésus, les choses sont complètes, parfaites, selon les standards de Dieu. C'est très beau de voir dans la vie du Seigneur Jésus, dans Jean 4 par exemple, il a dit, ma viande, ma nourriture, c'est que je fais la volonté de Dieu, ou que je l'accomplis. Ça, c'était sa nourriture, pour accomplir la volonté de Dieu. Ça, c'est cette perfection qu'on voit ici. Un autre détail, dans Jean 17, il en a parlé, dans Jean 17, qu'il avait complété l'œuvre que le Père lui avait donnée. Le Seigneur a complété l'œuvre. Ça me frappe souvent. Si nous pensons à nous-mêmes, on comprend, on commence quelque chose, mais est-ce qu'on va aller jusqu'à la perfection dans ce sens-là, l'accomplissement de ce qu'on a commencé? Avec le Seigneur, nous voyons cet accomplissement, cette qualité selon laquelle il a complété les choses. Et ça, c'est la pensée ici au verset 11. Si donc la perfection était par la sacrificature lévitique. La sacrificature lévitique ne pouvait pas amener l'accomplissement des choses, ou la perfection, ou compléter les choses. C'était impossible. C'est à cause de cet ordre inférieur. Les gens mouraient, et les autres arguments, et on verra 7 points la prochaine fois selon lesquels cet ordre était inférieur en qualité comparé avec l'ordre de Melchisédek. Ce mot perfection, maintenant, dans Jean 19, le Seigneur répète souvent qu'il voulait accomplir ce que la parole avait dit. Donne juste un exemple dans Jean 19. Jean 19, verset 28. C'est beau de voir comme juste un exemple de ce principe. La perfection ou l'accomplissement pour amener les choses à la perfection, c'est par le Seigneur Jésus. Ce n'est pas par la sacrificature lévitique. Et dans Jean 19, nous avons au verset 28, après cela, Jésus, sachant que toute chose était déjà accomplie, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Donc ici, il est au moment où presque tout était accompli, mais il manquait encore quelque chose. Et c'est pour cela qu'il a dit, j'ai soif, pour accomplir l'écriture. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit au verset 30? Quand donc Jésus eut pris le vinaigre, il dit, c'est accompli. Et ce verbe accomplir, comme verset 28, mais aussi verset 30 maintenant, c'est accompli, nous montre clairement que l'œuvre a été complètement accomplie. Rien ne pouvait être ajouté. L'œuvre était complète. Ayant baissé la tête, il remit son esprit. L'œuvre était complète. Là, le Seigneur pouvait baisser sa tête. Avant, jamais. Il ne pouvait jamais baisser sa tête pour reposer sa tête. L'œuvre n'était jamais accomplie avant. Et maintenant, c'est accompli. Il a trouvé ce repos, il a baissé sa tête, il a remis son esprit. C'était une preuve de cette perfection. Maintenant, pour revenir à Hébreux 7, verset 11, cette perfection a été amenée par le Seigneur Jésus, accomplie. Ce n'est pas selon l'ordre de Lévi, ou la sacrifice lévitique, mais selon cet ordre de Melchisédek. Et ainsi, l'argument, c'est que si le Seigneur Jésus est l'ordre, est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il n'y aura jamais un autre pour remplacer. Cet ordre ne se remplace pas. Vous voyez, il a amené la perfection, tout est maintenant parfait, et ainsi, cet ordre ne sera jamais remplacé par quelque chose d'autre. C'est donc pour encore souligner la grandeur de notre Seigneur Jésus. Et c'est cet contraste, on verra la prochaine fois, Dieu voulant. Encore un détail, à la fin du verset 11. Quel besoin était-il encore qu'un autre sacrificateur se levât, selon l'ordre de Melchisédek. Se lever ici, on a vu dans Zacharie tantôt que le germe s'est surgi. Et ce mot se lever implique cette pensée-là. J'aimerais donner deux exemples. Dans Luc 1, dans Luc, l'évangile de Luc, premier chapitre, Luc 1, verset 78. Luc 1, 78, où Zacharie parle du salut que Dieu, la connaissance du salut qu'il a donné à son peuple dans la rémission de péché, par les entrailles de miséricorde de notre Dieu, selon lesquelles l'Orient d'en haut nous a visités. Et dans la note, l'Orient veut dire levé ou levain. Et ainsi, dans les 70, il rendait ainsi le germe. Le mot germe, qu'on a vu aussi dans Zacharie 6, ça va ensemble avec ce mot se lever. Se lever et l'Orient d'en haut. Donc quelque chose de nouveau s'est levé et c'est par rapport à ce nouvel ordre de choses par le Seigneur Jésus comme ce vrai Melchisédek. Et dans Acte 3, Acte 3, verset 26, Acte 3, verset 26, Pierre parle aux Juifs, là, après la résurrection du Seigneur Jésus, et après son ascension. À vous, premièrement, Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de vos méchancetés. Quelle grâce de la part de Dieu! Mais c'était par le fait que Dieu a suscité son serviteur. Dans l'original, ce mot « susciter » et « se lever » vont ensemble. Le germe se lève, mais est aussi suscité par Dieu. Et chapitre 13, pour finir, acte 13, verset 33. Lisons aussi verset 32, acte 13, verset 32. Et nous, nous vous annonçons, c'est Paul qui parle ici, nous vous annonçons la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est encore annoncée aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous vous annonçons la bonne nouvelle quant à la promesse qui a été faite au Père, que Dieu l'a accomplie envers nous, leurs enfants, ayant suscité Jésus. Comme aussi il est écrit dans le psaume second, tu es mon fils, moi je t'ai aujourd'hui engendré. Et dans le contexte, ça veut dire, ce n'est pas seulement l'incarnation, ça implique aussi la résurrection du Seigneur Jésus et la place exaltée que Dieu lui a donnée, qu'on a vu. Dieu a suscité Jésus. Et c'est ça, le mot « se lever », comme on a vu dans Hébreux 7, verset 11, il n'y a pas besoin d'un autre sacrificateur qui se lève, qui sera suscité. Avec la suscitation du Seigneur Jésus, avec le fait que le Seigneur s'est levé, et maintenant s'est levé même dans la gloire, il n'y aura jamais besoin d'un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Il est ce sacrificateur, et avec lui, tout est parfait, tout est correct, tout est réglé. Tout est accompli, comme nous avons vu, la perfection a été introduite par lui, et ainsi tout est réglé à pleine satisfaction du cœur de Dieu. Mais nous avons vu, dans Luc 24, maintenant c'est à nous de donner une réponse. Est-ce qu'on répond à ça? Est-ce que nos cœurs se réjouissent dans le Seigneur Jésus, qui est ressuscité, qui a pris la place, notre place, sous le jugement de Dieu? Est-ce qu'on se réjouit? Est-ce qu'on va le servir aussi avec enthousiasme, comme ces premiers chrétiens l'ont fait? Ça, c'est maintenant le défi pour nous aujourd'hui. Plus on est impressionné par la grandeur du Seigneur Jésus, mieux on va être capable de servir Dieu par l'aide qu'il nous donne. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des choses qui doivent être clarifiées? Le mot bénir veut dire littéralement parler en bien. Donc bénir veut dire parler en bien de Dieu.
Souvent on utilise bien des termes qui parlent à Dieu,
mais oui. C'est bon de.
Oui.
Peut-être l'exemple qui est très clair, c'est dans 1 Corinthiens 10. Ça nous aide aussi à comprendre que c'est les deux côtés. 1 Corinthiens 10. Verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang du Christ? Donc maintenant le point. La coupe de bénédiction, ça nous parle des bénédictions de la part de Dieu. Dieu nous bénit. Mais de notre part, et ça c'est l'élément que j'ai dit tantôt, ce n'est pas développé dans Hébreux 7, mais de notre part, nous pouvons bénir Dieu. Nous pouvons bénir aussi cette coupe. La coupe de bénédiction que nous bénissons. Nous parlons en bien de cette coupe devant Dieu. C'est ça la pensée. Donc si je peux vous laisser avec un peu de devoir, chercher tous les versets qui nous parlent de l'excellence du Seigneur Jésus, de sa suprématie, ce serait un bon devoir. Dans Hébreux, toutes les passages qui nous parlent de son excellence et de sa supériorité.